Deuxième partie, chapitre 3. L'hiver passa. Gratia n'écrivait plus que rarement. Elle gardait à Christophe sa fidèle amitié, mais, en vraie italienne, fort peu sentimentale et attachée au réel, elle avait besoin de voir les gens, sinon pour penser à eux, du moins pour avoir plaisir à causer avec eux. Il lui fallait, pour entretenir la mémoire de son cœur, rafraîchir de temps en temps la mémoire de ses yeux. Ses lettres se faisaient donc brèves et lointaines. Elle restait sûre de Christophe, comme Christophe l'était d'elle. Mais cette sécurité répandait plus de lumière que de chaleur. Christophe ne souffrait pas trop de ses nouveaux mécomptes. Son activité musicale suffisait à le remplir. Arrivé à un certain âge, un vigoureux artiste vit dans son art bien plus que dans sa vie. La vie est devenue le rêve, l'art la réalité. Au contact de Paris, sa puissance créatrice s'était réveillée. Nul stimulant plus énergique au monde que le spectacle de cette ville de travail. Les plus flegmatiques sont touchés par sa fièvre. Christophe, reposé par des années de saine solitude, apportait une somme énorme de force à dépenser. Enrichi des conquêtes nouvelles que ne cessait de faire, dans le champ de la technique musicale, l'intrépide curiosité de l'esprit français, il se lançait à son tour à la découverte. Plus violent et plus barbare, il allait plus loin qu'eux tous. Mais rien dans ces hardiesses nouvelles n'était plus abandonné au hasard de l'instinct. Un besoin de clarté s'était emparé de Christophe. Tout le long de sa vie, son génie avait obéi à un rythme de courants alternants. Sa loi était de passer tour à tour d'un pôle à l'autre opposé et de remplir l'entre-deux. Après s'être avidement livré, dans la période précédente, aux yeux du chaos qui luisent à travers le voile de l'ordre, au point de déchirer le voile pour mieux les voir, il cherchait à s'arracher à leur fascination, à jeter de nouveau sur la face du sphinx le ray magique de l'esprit dominateur. Le souffle impérial de Rome avait passé sur lui. Comme l'art parisien d'alors, dont il subissait un peu la contagion, il aspirait à l'ordre, mais non pas à la façon de ces réactionnaires fatigués qui dépensent leur reste d'énergie à défendre leur sommeil, non pas à l'ordre dans Varsovie. Ces bonnes gens qui en reviennent à Saint-Saëns et à Brahms, aux Brahms de tous les arts, aux forts anthèmes, aux fades néoclassiques par besoin d'apaisement. Dirait-on pas qu'ils sont exténués de passion? Vous êtes bientôt fourbus, mes amis. Non, ce n'est pas de votre ordre que je parle. Le mien n'est pas de la même famille. C'est l'ordre dans l'harmonie des libres passions et de la volonté. Christophe s'étudiait à maintenir dans son art le juste équilibre des puissances de la vie. Ces accords nouveaux, ces démons musicaux qu'il avait fait surgir de l'abîme sonore, il les employait à bâtir de claires symphonies, de vastes architectures ensoleillées, comme les basiliques à coupoles italiennes. Ces jeux et ces combats de l'esprit l'occupèrent tout l'hiver. Et l'hiver passa vite, bien que parfois, le soir, Christophe, terminant sa journée et regardant derrière soi la somme de ses jours, n'aurait pas su dire si elle était longue ou courte, et s'il était encore jeune, ou s'il était très vieux. Alors, un nouveau rayon de soleil humain perça les voiles du rêve, et une nouvelle fois encore, ramena le printemps. Christophe reçut une lettre de Gratia, lui disant qu'elle venait à Paris avec ses deux enfants. Depuis longtemps, elle en avait le projet. La cousine Colette l'avait souvent invitée. La peur de l'effort à faire pour rompre ses habitudes, pour s'arracher à sa nonchalante paix et à son home qu'elle aimait, pour rentrer dans le tourbillon parisien qu'elle connaissait, lui avait fait remettre son voyage d'année en année. Une mélancolie qu'il a pris ce printemps, peut-être une déception secrète, que de romans muets dans le cœur d'une femme, sans que les autres en sachent rien, et que souvent elle se l'avoue elle-même, lui inspirèrent le désir de s'éloigner de Rome. Les menaces d'une épidémie lui furent un prétexte pour hâter le départ des enfants. Elle suivit de peu de jours sa lettre à Christophe. À peine la sut-il arrivée chez Colette, Christophe accourut la voir. Il la trouva encore absorbée et lointaine. Il en eut de la peine, mais il ne la lui montra pas. Il avait fait maintenant à peu près le sacrifice de son égoïsme, et cela lui donnait la clairvoyance du cœur. Il comprit qu'elle avait un chagrin qu'elle voulait cacher, et il s'interdit de chercher à le connaître. Il s'efforça seulement de la distraire, en lui contant gaiement ses mésaventures, en lui faisant part de ses travaux, de ses projets, en l'enveloppant discrètement de son affection. Elle se sentait pénétrée par cette grande tendresse qui craignait de s'imposer. Elle avait l'intuition que Christophe avait deviné sa peine, et elle en était attendrie. Son cœur un peu dolent se reposait dans le cœur de l'ami, qui lui parlait d'autre chose que de ce qui les occupait tous deux. Et peu à peu, il vit l'ombre mélancolique s'effacer des yeux de son ami, et leurs regards se faire plus proches, encore plus proches. Si bien qu'un jour, en lui parlant, il s'interrompit brusquement et la regarda en silence. « Qu'avez-vous ? » lui demanda-t-elle. « Aujourd'hui, dit-il, vous êtes tout à fait revenu. » Elle sourit, et tout bas, elle répondit « Oui. » Il n'était pas très facile de causer tranquillement. Ils étaient rarement seuls. Colette les gratifiait de sa présence, plus qu'il n'aurait voulu. Elle était excellente, malgré tous ses travers, sincèrement attachée à Gratia et à Christophe. Mais il ne lui venait pas à l'idée qu'elle pût les ennuyer. Elle avait bien remarqué, ses yeux remarquaient tout, ce qu'elle appelait le flirt de Christophe avec Gratia. Le flirt était son élément, elle en était enchantée. Elle ne demandait qu'à l'encourager. Mais précisément, on ne le lui demandait pas. On souhaitait qu'elle ne se mêlât pas de ce qui ne la regardait point. Il suffisait qu'elle parût, ou fît à l'un des deux une allusion discrète, indiscrète, à leur amitié, pour que Christophe et Gratia prissent un air glacé et parlassent d'autre chose. Colette cherchait à leur réserve toutes les raisons possibles, hors une seule, la vraie. Heureusement pour les amis, elle ne pouvait tenir en place. Elle allait et venait, entrait, sortait, surveillait tout dans la maison, menait 10 affaires à la fois. Dans l'intervalle de ces apparitions, Christophe et Gratia, seuls avec les enfants, reprenaient le fil de leurs innocents entretiens. Ils ne parlaient jamais des sentiments qui les unissaient. Ils se confiaient leurs petites aventures journalières. Gratia s'informait, avec un intérêt féminin, des affaires domestiques de Christophe. Tout allait mal chez lui. Il avait des démêlés sans fin avec ses femmes de ménage. Il était constamment dupé, volé par ceux qui le servaient. Elle en riait de bon cœur, avec une compassion maternelle, pour le peu de sens pratique de ce grand enfant. Un jour que Colette venait de les quitter après les avoir persécutés plus longtemps qu'à l'ordinaire, Gratia soupira. « Pauvre Colette, je l'aime bien. Comme elle m'ennuie !»« Je l'aime aussi, dit Christophe. Si vous entendez par là qu'elle nous ennuie. » Gratia rit. « Écoutez, me permettez-vous ? Il n'y a décidément pas moyen de causer en paix ici. Me permettez-vous d'aller une fois chez vous ?» Il eut un saisissement. « Chez moi ? Vous viendriez ? Cela ne vous contrarie pas ?»« Me contrarier ? Oh, mon Dieu ! Eh bien, voulez-vous mardi ? Mardi, mercredi, jeudi, tous les jours que vous voudrez. Mardi 4 heures, alors. C'est convenu. Vous êtes bonne. Vous êtes bonne. Attendez, c'est à une condition. Une condition, à quoi bon ? Tout ce que vous voulez. Vous savez que je le ferai, avec ou sans condition. J'aime mieux une condition. C'est promis. Vous ne savez pas quoi ? Cela m'est égal. C'est promis. Tout ce que vous voudrez. Mais écoutez d'abord, entêté. Dites, c'est que d'ici là, vous ne changerez rien, rien, vous entendez, à votre appartement. Tout restera dans le même état exactement. La mine de Christophe s'allonge. Il prend l'air consterné. Ah, ce n'est pas de jeu. Elle rit. Vous voyez, voilà ce que c'est que de s'engager trop vite. Mais vous avez promis. Mais pourquoi voulez-vous ? Parce que je veux vous voir chez vous, comme vous êtes, tous les jours, quand vous ne m'attendez pas. « Enfin, vous me permettrez bien. Rien du tout, je ne permettrai rien. Au moins. Non, 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 je ne veux rien entendre. Ou je ne viendrai pas, si vous le préférez. Vous savez bien que je consentirai à tout, pourvu que vous veniez. Alors, c'est promis ? Oui. J'ai votre parole ? Oui, tyran. Bon tyran ? Il n'y a pas de bon tyran. Il y a des tyrans qu'on aime et des tyrans qu'on déteste. Et je suis des deux, n'est-ce pas ? Oh non, vous n'êtes que les premiers. C'est joliment humiliant. Le jour dit, elle vint. Christophe, avec son scrupule de loyauté, n'avait pas osé ranger la moindre feuille de papier dans son appartement en désordre. Il se serait cru déshonoré. Mais il était à la torture. Il avait honte de ce que penserait son ami. Il l'attendait anxieusement. Elle fut exacte. Elle arriva 4 à 5 minutes à peine après l'heure. Elle monta l'escalier de son petit pas ferme. Elle sonna. Il était derrière la porte et il l'ouvrit. Elle était mise avec une simple élégance. Au travers de sa voilette, il vit ses yeux tranquilles. Ils se dirent « bonjour » à mi-voix en se donnant la main. Elle, plus silencieuse que d'habitude, lui, gauche et ému, se taisait pour ne pas montrer son trouble. Il la fit entrer sans lui dire la phrase qu'il avait préparée, afin d'excuser le désordre de la chambre. Elle s'assit sur la meilleure chaise et lui auprès. « Voilà mon cabinet de travail. » Ce fut tout ce qu'il trouva à dire. Un silence. Elle regardait sans hâte, avec un sourire de bonté, elle aussi un peu troublée. Plus tard, elle lui raconta qu'enfant, elle avait pensé à venir chez lui, mais elle avait eu peur au moment d'entrer. Elle était saisie de l'aspect de solitude et de tristesse de l'appartement. L'antichambre étroite et obscure, le manque absolu de confort, la pauvreté visible, lui serraient le cœur. Elle était pleine de pitié affectueuse pour son vieil ami, que tant de travaux, tant de peines et quelques célébrités n'avaient pu affranchir de la gêne des soucis matériels. Et en même temps, elle s'amusait de l'indifférence totale au bien-être que révélait la nudité de cette pièce, sans un tapis, sans un tableau, sans un objet d'art, sans un fauteuil. Pas d'autre meuble qu'une table, 3 chaises dures et un piano. Et mêlée à quelques livres, des papiers surtout, sur la table, sous la table, sur le parquet, sur le piano, sur les chaises. Elle sourit, en voyant avec quelle conscience il avait tenu parole. Après quelques instants, elle lui demanda « C'est ici, montrant sa place, que vous travaillez ?»« Non, dit-il, c'est là. » Il indiqua le renfoncement le plus obscur de la pièce et une chaise basse qui tournait le dos à la lumière. Elle alla s'y mettre, gentiment, sans un mot. Ils se turent quelques minutes et il ne savait que dire. Il se leva et alla au piano. Il joua, il improvisa pendant une demi-heure. Il se sentait entouré de son ami, et un immense bonheur lui gonflait le cœur. Les yeux fermés, il joua des choses merveilleuses. Elle comprit alors la beauté de cette chambre, toute vêtue de divines harmonies. Elle entendait, comme s'il battait dans sa poitrine, ce cœur aimant et souffrant. Quand les harmonies se furent tues, il resta un moment encore immobile devant le piano. Puis il se retourna, entendant la respiration de son ami qui pleurait. Elle vint à lui. « Merci, » murmura-t-elle en lui prenant la main. Sa bouche tremblait un peu. Elle ferma les yeux. Il fit de même. Quelques secondes, ils restèrent ainsi, la main dans la main, et le temps s'arrêta. Elle rouvrit les yeux, et pour se dégager de son trouble, elle demanda « Voulez-vous que je voie le reste de l'appartement ?» Heureux aussi d'échapper à son émotion, il ouvrit la porte de la chambre voisine. Mais aussitôt, il eut honte. Il y avait là un lit de fer étroit et dur. Plus tard, quand il confia à Grazia qu'il n'avait jamais introduit de maîtresse dans sa maison, elle lui dit, moqueuse, « Je m'en doute bien, il eût fallu qu'elle eût un grand courage. Pourquoi ? Pour dormir dans votre lit. » Il y avait aussi une commode de campagne, au mur un moulage de la tête de Beethoven, et près du lit, dans des cadres de quelques sous, les photographies de sa mère et d'Olivier. Sur la commode, une autre photographie, elle, Grazia, à 15 ans. Il l'avait trouvée à Rome dans un album chez elle, et il l'avait volée. Il le lui avoua en lui demandant pardon. Elle regarda l'image et dit « Vous me reconnaissez, là ? Je vous reconnais et je me souviens. Quel aimez-vous le mieux des deux ? Vous êtes toujours la même. Je vous aime toujours autant. Je vous reconnais partout. Même dans vos photographies de toute petite enfant. Vous ne savez pas quelle émotion j'éprouve à sentir dans cette chrysalide toute votre âme, déjà. Rien ne me fait mieux connaître que vous êtes éternel. Je vous aime dès avant votre naissance, et je vous aime jusqu'après que... » Il se tut. Elle resta sans répondre, amoureusement troublée. Quand elle fut revenue dans le cabinet de travail et qu'il lui eut montré, devant la fenêtre, le petit arbre, son ami, où bavardaient les moineaux, elle dit « Maintenant, savez-vous ce que nous allons faire? Nous allons goûter. J'ai apporté le thé et les gâteaux parce que j'ai bien pensé que vous n'aviez rien de tout cela. Et j'ai encore apporté autre chose. Donnez-moi votre par-dessus. »
« Mon par-dessus ? » ?»«
Oui, oui, donnez. » Elle tira de son sac des aiguilles du fil. « Quoi, vous voulez ? Il y avait deux boutons l'autre jour dont le sort m'inquiétait. Où en sont-ils aujourd'hui ? » ?»«
C'est vrai, je n'ai pas encore pensé à les recoudre. C'est si ennuyeux. » »«
Pauvre garçon, donnez. » »«
J'ai honte.
Allez préparer le thé. » Il apporta dans la chambre la bouillotte et la lampe à alcool pour ne pas perdre un instant de son ami. Elle, tout en cousant, regardait du coin de l'œil malicieusement ses gaucheries. Ils prirent le thé dans des tasses ébréchées qu'elle trouva affreuses avec ménagement et qu'ils défendaient avec indignation parce qu'elles étaient des souvenirs de la vie commune avec Olivier. Au moment où elle partait, il demanda « Vous ne m'en voulez pas ?»«
De quoi donc ?»«
Du désordre qui est ici. » Elle rit. « Je ferai l'ordre. » Quand elle fut sur le seuil et près d'ouvrir la porte, il s'agenouilla devant elle et lui baisa les pieds.
« Que faites-vous » dit-elle.
« Fou, cher fou.
Adieu. »
Il fut convenu qu'elle reviendrait toutes les semaines à jour fixe. Elle lui avait fait promettre qu'il n'y aurait plus d'excentricité, plus d'agenouillement, plus de baisement de pieds. Un calme si doux émanait d'elle que Christophe en était pénétré, même dans ses jours de violence. Et bien que, lorsqu'il était seul, il pensa à elle avec un désir passionné, ensemble, ils étaient toujours comme de bons camarades. Jamais il ne lui échappait un mot, un geste qui put inquiéter son amie. Pour la fête de Christophe, elle habilla sa petite fille, comme elle-même était, au temps où ils s'étaient rencontrés jadis pour la première fois. Et elle fit jouer à l'enfant le morceau que Christophe, jadis, lui faisait répéter. Cette grâce, cette tendresse, cette bonne amitié, se mêlait à des sentiments contradictoires. Elle était frivole, elle aimait la société, elle avait plaisir à être courtisée, même par des sots. Elle était assez coquette, sauf avec Christophe, même avec Christophe. Lorsqu'il était tendre avec elle, elle était volontiers froide et réservée. Lorsqu'il était froid et réservé, elle se faisait tendre, et elle lui adressait d'affectueuses agaceries. La plus honnête des femmes, mais dans la plus honnête, il y a par moments une fille. Elle tenait à ménager le monde, à se conformer aux conventions. Bien douée pour la musique, elle comprenait les œuvres de Christophe, mais elle ne s'y intéressait pas beaucoup, et il le savait bien. Pour une vraie femme latine, l'art n'a de prix qu'autant qu'il se ramène à la vie, et la vie à l'amour. L'amour qui couve au fond du corps voluptueux, engourdi. Qu'a-t-elle à faire des symphonies tourmentées, des méditations tragiques, des passions intellectuelles du Nord ? Il lui faut une musique où ses désirs cachés s'épanouissent, avec un minimum d'efforts. Un opéra qui soit la vie passionnée, sans la fatigue des passions, un art sentimental, sensuel et paresseux. Elle était faible et changeante. Elle ne pouvait s'appliquer à une étude sérieuse que par intermittence. Il lui fallait se distraire. Rarement, elle faisait le lendemain ce qu'elle avait annoncé la veille. Que de puérilité, de petits caprices déconcertants. La trouble nature de la femme, son caractère maladif et déraisonnable par période. Elle s'en rendait compte et tâchait alors de s'isoler. Elle connaissait ses faiblesses, elle se reprochait de n'y pas résister, puisqu'elle chagrinait son amie. Quelquefois, elle lui fit, sans qu'il le sût, de réels sacrifices. Mais au bout du compte, la nature était la plus forte. Au reste, Gratia ne pouvait souffrir que Christophe eût l'air de lui commander. Et il arriva qu'une ou deux fois, pour affirmer son indépendance, elle fit le contraire de ce qu'il lui demandait. Ensuite, elle le regrettait. La nuit, elle avait des remords de ne pas rendre Christophe plus heureux. Elle l'aimait beaucoup plus qu'elle ne le montrait. Elle sentait que cette amitié était la meilleure part de sa vie. Comme il est ordinaire, entre deux êtres très différents qui s'aiment, ils étaient le mieux unis quand ils n'étaient pas ensemble. En vérité, si un malentendu avait séparé leur destinée, la faute n'en était pas tout entière à Christophe, ainsi qu'il le croyait bonnement. Même lorsque Gratia, jadis, aimait le plus Christophe, l'eût-elle épousé ?
Elle lui aurait peut-être donné sa vie, mais lui aurait-elle donné de vivre toute sa vie avec lui? Elle savait, elle se gardait de l'avouer à Christophe, elle savait qu'elle avait aimé son mari et qu'encore aujourd'hui, après tout le mal qu'il lui avait fait, elle l'aimait comme jamais elle n'avait aimé Christophe. Secret du cœur, secret du corps, dont on n'est pas très fier, et qu'on cache à ceux qui vous sont chers, autant par respect pour eux que par une pitié complaisante pour soi. Christophe était trop homme pour les deviner, mais il lui arrivait, par éclair, d'entrevoir combien celle qu'il aimait le mieux tenait peu à lui, et qu'il ne faut compter tout à fait sur personne dans la vie. Son amour n'en était pas altéré. Il n'en éprouvait même aucune amertume. La paix de Gratia s'étendait sur lui. Il acceptait. « Oh, vie, pourquoi te reprocher ce que tu ne peux donner ? N'es-tu pas très belle et très sainte comme tu es ? Il faut aimer ton sourire, Joconde. » Christophe contemplait longuement le beau visage de l'ami. Il y lisait bien des choses du passé et de l'avenir. Durant les longues années où il avait vécu seul, voyageant, parlant peu, mais regardant beaucoup, il avait acquis une divination du visage féminin, cette langue riche et complexe que des siècles ont formée, mille fois plus complexe que le langage parlé. La race s'exprime en elle, contraste perpétuel entre les lignes d'une figure et les mots qu'elle dit. Tel profil de jeune femme, au dessin net, un peu sec, à la façon de Burne Jones, tragique, comme rongée par une passion secrète, une jalousie, une douleur shakespearienne. Elle parle. C'est une petite bourgeoise, sotte comme un panier, coquette et égoïste avec médiocrité, n'ayant aucune idée des redoutables forces inscrites dans sa chair. Cependant, cette passion, cette violence sont en elle. Sous quelle forme se traduiront-elles un jour? Sera-ce par une âpreté au gain, une jalousie conjugale, une belle énergie, une méchanceté maladive? On ne sait. Il se peut même qu'elle les transmette à un autre de son sang avant que soit venue l'heure de l'explosion. Mais c'est un élément qui plane sur la race comme une fatalité. Gratia aussi portait le poids de ce trouble héritage qui, de tout le patrimoine des vieilles familles, est ce qui risque le moins de se dissiper en route. Elle, du moins, le connaissait. Grande force de savoir sa faiblesse, de se rendre, sinon maître, pilote de l'âme de la race à laquelle on est lié, qui vous emporte comme un vaisseau. De faire son instrument de la fatalité, de s'en servir comme d'une voilure, comptant ou cargue, suivant le vent. Lorsque Gratia fermait les yeux, elle entendait en elle plus d'une voix inquiétante dont le timbre lui était connu. Mais dans son âme saine, les dissonances finissaient par se fondre. Elle formait, sous la main de sa raison harmonieuse, une musique profonde et veloutée. Par malheur, il ne dépend pas de nous de transmettre à ceux de notre sang le meilleur de notre sang. Des deux enfants de Gratia, l'une, la fillette, Aurora, qui avait 11 ans, lui ressemblait. Elle était moins jolie, d'une sève un peu rustique. Elle boitait légèrement. C'était une bonne petite, affectueuse et gaie, qui avait une excellente santé, beaucoup de bonne volonté, peu de dons naturels, sauf celui de l'oisiveté, la passion de ne rien faire. Christophe l'adorait. Il goûtait, en la voyant à côté de Gratia, le charme d'un être double qu'on saisit à la fois à deux âges de sa vie. Deux fleurs d'une même tige, une sainte famille de Léonard, la Vierge et la Sainte Anne, une gamme du même sourire. On embrasse d'un regard l'entière floraison d'une âme féminine. Et cela est beau et mélancolique, car on la voit passer. Rien de plus naturel pour un cœur passionné que d'aimer d'amour brûlant et chaste les deux sœurs à la fois, ou la mère et la fille. La femme que Christophe aimait, il eût voulu l'aimer dans toute la suite de sa race. Chacun de ses sourires, de ses pleurs, des plis de son cher visage, n'était-il pas un être, le ressouvenir d'une vie écoulée, avant que se fussent ouverts ses yeux à la lumière, l'annonciateur d'un être qui viendrait plus tard, quand ses beaux yeux seraient fermés. Le petit garçon, Lionello, avait 9 ans. Beaucoup plus joli que sa sœur et d'une race plus fine, trop fine, exsangue et usée, il ressemblait au père. Il était intelligent, riche en mauvais instincts, caressant et dissimulé. Il avait de grands yeux bleus, de longs cheveux blonds de fille, le teint blême, la poitrine délicate, une nervosité maladive dont il jouait à l'occasion, étant comédien né, étrangement habile à trouver le faible des gens. Grazia avait pour lui une prédilection, par cette préférence naturelle des mères pour l'enfant moins bien portant. Aussi par cet attrait de femmes bonnes et honnêtes pour des fils qui ne sont ni l'un ni l'autre. Car en eux se soulage toute une part de leur vie qu'elles ont refoulée. Et il s'y mêle encore un souvenir de l'homme qui les a fait souffrir et jouir, qu'elles ont méprisé peut-être, mais aimé. Toute cette flore capiteuse de l'âme qui pousse dans la serre obscure et tiède du subconscient. Malgré l'attention de Grazia à partager entre ses deux enfants également sa tendresse, Aurora sentait la différence, et elle en souffrait un peu. Christophe la devinait, elle devinait Christophe. Ils se rapprochaient d'instinct. Au lieu qu'entre Christophe et Lionello grondait une antipathie que l'enfant déguisait sous une exagération de gentillesse zézayante, que Christophe repoussait comme un sentiment honteux. Il se faisait violence. Il s'efforçait de chérir cet enfant d'un autre, comme si c'était celui qu'il lui eût été ineffablement doux d'avoir de l'aimer. Il ne voulait pas reconnaître la mauvaise nature de Lionello, tout ce qui lui rappelait l'autre. Il s'appliquait à ne trouver en lui que l'âme de Grazia. Grazia, plus clairvoyante, ne se faisait aucune illusion sur son fils, et elle ne l'en aimait que davantage. Cependant, le mal qui depuis des années couvait chez l'enfant éclata. La phtisie. Grazia prit la résolution d'aller s'enfermer avec Lionello dans un sanatorium des Alpes. Christophe demanda à l'accompagner. Pour ménager l'opinion, elle l'en dissuada. Il fut peiné de l'importance excessive qu'elle attachait aux conventions. Elle partit. Elle avait laissé sa fille chez Colette. Elle ne tarda pas à se sentir terriblement isolée, parmi ces malades qui ne parlent que de leur mal, dans cette nature sans pitié, dont le visage impassible se dresse au-dessus des loques humaines. Pour fuir le spectacle déprimant de ces malheureux qui, le crachoir à la main, s'épient les uns les autres et suivent sur le voisin les progrès de la mort, elle quitta le palace hôpital et elle loua un chalet où elle était seule avec son petit malade. Au lieu d'améliorer, l'altitude aggravait l'état de Lionello. La fièvre était plus forte. Grazia passa des nuits d'angoisse. Christophe en ressentait au loin l'intuition aiguë, quoique son amie ne lui écrivît rien, car elle se raidissait dans sa fierté. Elle eût souhaité que Christophe fût là, mais elle lui avait interdit de la suivre. Elle ne pouvait consentir à avouer maintenant « Je suis trop faible, j'ai besoin de vous ». Un soir qu'elle se tenait sur la galerie du chalet, à cette heure du crépuscule si cruelle pour les cœurs tourmentés, elle vit. Elle crut voir sur le sentier qui montait de la station du funiculaire. Un homme marchait, d'un pas précipité. Il s'arrêtait, hésitant, le dos un peu voûté. Il leva la tête et regarda le chalet. Elle se jeta à l'intérieur, afin qu'il ne la vît pas. Elle comprimait son cœur avec ses mains, et, tout émue, elle riait. Bien qu'elle ne fût guère religieuse, elle se mit à genoux. Elle cacha sa figure dans ses bras. Elle avait besoin de remercier quelqu'un. Cependant, il n'arrivait pas. Elle retourna à la fenêtre et regarda, cachée derrière ses rideaux. Il s'était arrêté, adossé à la barrière d'un champ, près de la porte du chalet. Il n'osait pas entrer. Et elle, plus troublée que lui, souriait et disait tout bas « Viens, viens !» Enfin, il se décida et sonna. Déjà, elle était à la porte. Elle ouvrit. Il avait les yeux d'un bon chien qui craint d'être battu. Il dit « Je suis venu, pardon. » Elle lui dit « Merci. » Alors elle lui avoua combien elle l'attendait. Christophe l'aida à soigner le petit, dont l'état empirait. Il y mit tout son cœur. L'enfant lui témoignait une animosité irritée. Il ne prenait plus la peine de la cacher. Il trouvait à dire des paroles méchantes. Christophe attribuait tout au mal. Il avait une patience qui ne lui était pas coutumière. Ils passèrent au chevet de l'enfant une suite de jours pénibles, surtout une nuit de crise, au sortir de laquelle Lionello, qui semblait perdu, fut sauvé. Et ce fut alors pour eux un bonheur si pur, tous deux veillant le petit malade endormi, que brusquement elle se leva, elle prit son manteau à capuchon, elle entraîna Christophe au dehors, sur la route, dans la neige, le silence et la nuit, sous les froides étoiles. Appuyée à son bras, aspirant avec enivrement la paix glacée du monde, ils échangeaient à peine quelques syllabes. Nulle allusion à leur amour. Seulement, quand ils rentrèrent, sur le pas de la porte, elle lui dit « Mon cher, cher ami », les yeux illuminés de bonheur pour leur enfant sauvé. Ce fut tout, mais ils sentirent que leur lien était devenu sacré. De retour à Paris, après la longue convalescence, installée dans un petit hôtel qu'elle avait loué à Passy, elle ne prit plus aucun soin de ménager l'opinion. Elle se sentait le courage de la braver pour son amie. Leur vie était désormais si intimement mêlée qu'elle se fut jugée lâche de cacher l'amitié qui les unissait, au risque inévitable que cette amitié fût calomniée. Elle recevait Christophe à toute heure du jour. Elle se montrait avec lui en promenade au théâtre. Elle lui parlait familièrement devant tous. Personne ne doutait qu'ils ne fussent amants. Colette elle-même trouvait qu'ils s'affichaient trop. Gratia arrêtait les allusions d'un sourire et tranquillement passait outre. Pourtant, elle n'avait donné à Christophe aucun droit nouveau sur elle. Ils n'étaient rien qu'amis. Ils lui parlaient toujours avec le même respect affectueux. Mais entre eux, rien n'était caché. Ils se consultaient sur tout. Et, insensiblement, Christophe exerçait dans la maison une sorte d'autorité familiale. Gratia l'écoutait et suivait ses conseils. Depuis l'hiver passé dans le sanatorium, elle n'était plus la même. Les inquiétudes et les fatigues avaient éprouvé gravement sa santé, jusque-là robuste. L'âme s'en était ressentie. Malgré quelques retours des caprices d'antan, elle avait un je ne sais quoi de plus sérieux, de plus recueilli, un plus constant désir d'être bonne, de s'instruire et de ne pas faire de peine. Elle était attendrie de l'affection de Christophe, de son désintéressement, de sa pureté de cœur. Et elle songeait à lui faire, quelques jours, le grand bonheur qu'il n'osait plus rêver, devenir sa femme. Jamais il n'en avait reparlé depuis le refus qu'elle lui avait opposé. Il ne se le croyait pas permis, mais il gardait le regret de l'espoir impossible. Quelque respect qu'il eût pour les paroles de l'ami, la façon désabusée dont elle jugeait le mariage ne l'avait pas convaincu. Il persistait à croire que l'union de deux êtres qui s'aiment, d'un amour profond et pieux, est le fait du bonheur humain. Ses regrets furent ravivés par la rencontre du vieux ménage Arnaud. Madame Arnaud avait plus de 50 ans, son mari 65 ou 6. Tous deux paraissaient en avoir beaucoup plus. Lui s'était épaissi, elle, tout amincie, un peu ratatinée. Si fluette autrefois déjà, elle n'était plus qu'un souffle. Il s'était retiré dans une maison de province, après qu'Arnaud eut pris sa retraite. Nul lien ne les rattachait plus au siècle que le journal qui venait, dans la torpeur de la petite ville et de leur vie qui s'endormait, leur apporter l'écho tardif des rumeurs du monde. Ils y lurent, une fois, le nom de Christophe. Madame Arnaud lui écrivit quelques lignes affectueuses, un peu cérémonieuses, pour lui dire la joie qu'ils avaient de sa gloire. Aussitôt, il prit le train sans s'annoncer. Il les trouva dans leur jardin, assoupis sous le dais rond d'un frêne, par une chaude après-midi d'été. Ils étaient comme les deux vieux époux de Böcklin qui s'endorment sous la tonnelle, la main dans la main. Le soleil, le sommeil, la vieillesse les accablent. Ils tombent, ils sont déjà plus qu'à mi-corps enfoncés dans le rêve d'au-delà. Et, dernière lueur de vie, persiste jusqu'au bout leur tendresse, le contact de leurs mains, la chaleur mêlée de leur corps qui s'éteint. Ils eurent une grande joie de la visite de Christophe pour tout ce qu'il leur rappelait du passé. Ils causèrent des jours anciens qui de loin leur semblaient lumineux. Arnaud se complaisait à parler, mais il avait perdu la mémoire des noms. Madame Arnaud le lui soufflait. Elle se taisait volontiers, elle aimait mieux écouter que parler, mais les images d'autrefois s'étaient conservées fraîches dans son cœur silencieux. Par lueur, elles transparaissaient comme des cailloux qui brillent dans un ruisseau. Il en était une que Christophe reconnut dans les yeux qui le regardaient avec une affectueuse compassion. Mais le nom d'Olivier ne fut pas prononcé. Le vieil Arnaud avait pour sa femme des attentions maladroites et touchantes. Il était soucieux qu'elle ne prît froid, qu'elle ne prît chaud. Il couvait d'un amour inquiet ce cher visage fané dont le sourire fatigué s'efforçait de le rassurer. Christophe les observait, ému, avec un peu d'envie. Vieillir ensemble, aimer dans sa campagne jusqu'à l'usure des ans. Se dire, Ces petits plis près de l'œil, sur le nez, je les connais. Je les ai vus se former. Je sais quand ils sont venus. Ces pauvres cheveux gris, ils se sont décolorés jour par jour avec moi, un peu par mois, hélas. Ce fin visage s'est gonflé et rougi à la forge des fatigues et des peines qui nous ont brûlés. Mon âme, que je t'aime mieux encore, d'avoir souffert et vieilli avec moi. Chacune de tes rides met une musique du passé. Charmantes vieilles gens qui, après la longue veille de la vie, côte à côte, vont s'endormir côte à côte dans la paix de la nuit. Leur vue était bienfaisante et douloureuse pour Christophe. Oh, que la vie, que la mort eût été belle ainsi! Quand il revit Gratia, il ne put s'empêcher de lui raconter sa visite. Il ne lui dit pas les pensées que cette visite avait éveillées, mais elle les lut en lui. Il était absorbé en parlant. Il détournait les yeux. Et il se taisait par moments. Elle le regardait, elle souriait, et le trouble de Christophe se communiquait à elle. Ce soir-là, quand elle se retrouva seule dans sa chambre, elle resta à rêver. Elle se redisait le récit de Christophe. Mais l'image qu'elle voyait au travers n'était pas celle des vieux époux endormis sous le frêne. C'était le rêve timide et ardent de son ami. Et son cœur était plein d'amour. Couchée, la lumière éteinte, elle pensait « Oui, c'est une chose absurde, absurde et criminelle, de perdre l'occasion d'un tel bonheur. Quelle joie au monde vaut celle de rendre heureux celui qu'on aime. Quoi, est-ce que je l'aime ?» Elle se tut, écoutant, émue, son cœur qui répondait « Je l'aime. » À ce moment, une toux sèche, rauque, précipitée, éclata dans la chambre voisine où dormaient les enfants. Gratia dressa l'oreille. Depuis la maladie du petit, elle était toujours inquiète. Elle interrogea. Il ne répondit pas et continua de tousser. Elle sauta du lit, elle vint auprès de lui. Il était irrité, il geignait. Il disait qu'il n'était pas bien et il s'interrompait pour tousser. « Où as-tu mal ?» Il ne répondait pas. Il gémissait qu'il avait mal. « Mon trésor, je t'en prie, dis-moi où tu as mal. »
« Je ne sais pas. »«
As-tu mal ici ?»«
Oui, non, je ne sais pas, j'ai mal partout. »
Là-dessus, il était pris d'une nouvelle quinte de toux, violente, exagérée. Gratia était effrayée. Elle avait le sentiment qu'il se forçait à tousser. Mais elle se le reprochait en voyant le petit en sueur et haletant. Elle l'embrassait. Elle lui disait de tendres paroles. Il semblait se calmer. Mais aussitôt qu'elle essayait de le quitter, il recommençait à tousser. Elle dut rester à son chevet, grelottante, car il ne permettait même pas qu'elle s'éloignât pour se vêtir. Il voulait qu'elle lui tînt la main, et il ne la lâcha point jusqu'à ce que le sommeil le prît. Alors elle se recoucha, glacée, inquiète, harassée. Et il lui fut impossible de retrouver ses rêves. L'enfant avait un pouvoir singulier de lire dans la pensée de sa mère. On trouve assez souvent, mais à ce degré rarement, ce génie instinctif chez les êtres du même sang. À peine ont-ils besoin de se regarder pour savoir ce que l'autre pense. Ils le devinent à mille indices imperceptibles. Cette disposition naturelle, que fortifie la vie en commun, était aiguisée chez Leonello par une méchanceté toujours en éveil. Il avait la clairvoyance que donne le désir de nuire. Il détestait Christophe. Pourquoi ? Pourquoi un enfant prend-il en aversion tel ou tel qui ne lui a rien fait ? Souvent, c'est le hasard. Il suffit que l'enfant ait commencé, un jour, par se persuader qu'il déteste quelqu'un pour en prendre l'habitude. Et plus on le raisonne, plus il s'obstine. Après avoir joué la haine, il finit par haïr vraiment. Mais il est d'autres fois des raisons plus profondes qui dépassent l'esprit de l'enfant. Il ne les soupçonne pas. Dès les premiers jours qu'il avait vu Christophe, le fils du comte Burény avait senti de l'animosité contre celui que sa mère avait aimé. On eût dit qu'il avait eu l'intuition de l'instant précis où Gratia songea à épouser Christophe. À partir de ce moment, il ne cessa plus de les surveiller. Il était toujours entre eux. Il refusait de quitter le salon lorsque Christophe venait. Ou bien il s'arrangeait de façon à faire brusquement irruption dans la pièce où ils se trouvaient ensemble. Bien plus, quand sa mère était seule et pensait à Christophe, il s'asseyait près d'elle, et il l'épiait. Ce regard la gênait, la faisait presque rougir. Elle se levait pour cacher son trouble. Il prenait plaisir à dire de Christophe devant elle des choses blessantes. Elle le priait de se taire, il insistait. Et si elle voulait le punir, il menaçait de se rendre malade. C'était une tactique dont il usait avec succès depuis l'enfance. Tout petit, un jour qu'on l'avait grondé, il avait inventé comme vengeance de se déshabiller et de se coucher nu sur le carreau afin de prendre un gros rhume. Une fois que Christophe venait d'apporter une œuvre musicale qu'il avait composée pour la fête de Grazia, Lionello s'empara du manuscrit et le fit disparaître. On en retrouva les lambeaux déchirés dans un coffre à bois. Grazia perdit patience. Elle gronda sévèrement l'enfant. Alors il pleura, cria, tapa les pieds, se roula par terre. Et il eut une crise de nerfs. Grazia, épouvantée, l'embrassa, le supplia, promit tout ce qu'il voulut. De ce jour, il fut le maître, car il sut qu'il l'était. Et à maintes reprises, il eut recours à l'arme qui lui avait réussi. On ne savait jamais jusqu'à quel point ces crises étaient naturelles ou simulées. Il ne se contentait plus d'en user par vengeance quand on le contrariait, mais par pure méchanceté lorsque sa mère et Christophe avaient le projet de passer la soirée ensemble. Il en vint même à jouer ce jeu dangereux par désœuvrement, par cabotinage, et afin d'essayer jusqu'où allait son pouvoir. Il était d'une ingéniosité extrême à inventer de bizarres accidents nerveux. Tantôt, au milieu d'un dîner, il était pris de tremblements convulsifs. Il renversait son verre ou cassait son assiette. Tantôt, montant un escalier, sa main s'agrippait à la rampe. Ses doigts se crispaient. Il prétendait qu'il ne pouvait plus les rouvrir. Ou bien il avait une douleur lancinante au côté et il se roulait avec des cris. Ou bien il étouffait. Naturellement, il finit par se donner une vraie maladie nerveuse. Mais il n'avait pas perdu sa peine. Christophe et Grazia étaient affolés. La paix de leur réunion, ses calmes causeries, ses lectures, cette musique dont il se faisait une fête, tout cet humble bonheur était désormais ruiné. De loin en loin, le petit drôle leur laissait quelque répit, soit qu'il fût fatigué de son rôle, soit que sa nature d'enfant le reprît et qu'il pensât à autre chose. Il était sûr maintenant d'avoir gagné la partie. Alors, vite, vite, ils en profitaient. Chaque heure qu'ils dérobaient ainsi leur était d'autant plus précieuse qu'ils n'étaient pas certains d'en jouir jusqu'au bout. Qu'ils se sentaient proches l'un de l'autre. Pourquoi ne pouvaient-ils rester toujours ainsi? Un jour, Grazia elle-même avoua ce regret. Christophe lui saisit la main. « Oui, pourquoi » demanda-t-il. « Vous le savez bien, mon ami, » dit-elle avec un sourire navré. Christophe le savait. Il savait qu'elle sacrifiait leur bonheur à son fils. Il savait qu'elle n'était pas dupe des mensonges de Lionello, et pourtant qu'elle l'adorait. Il savait l'égoïsme aveugle de ses affections de famille, qui font dépenser au meilleur leurs réserves de dévouement au profit d'êtres mauvais ou médiocres de leur sang. Après quoi, il ne leur reste plus rien à donner à ceux qui en seraient les plus dignes, à ceux qu'ils aiment le mieux, mais qui ne sont pas de leur sang. Et bien qu'il s'en irritât, bien qu'il eût envie par moments de tuer le petit monstre qui détruisait leur vie, il s'inclinait en silence et comprenait que Grazia ne pouvait agir autrement. Alors ils renoncèrent tous deux, sans récriminations inutiles. Mais si l'on pouvait leur voler le bonheur qui leur était dû, rien ne pouvait empêcher leur cœur de s'unir. Le renoncement même, le commun sacrifice les tenait par des liens plus forts que ceux de la chair. Chacun d'eux, tour à tour, confiait ses peines à son ami, s'en déchargeait sur lui, et prenait en échange les peines de son ami. Ainsi, le chagrin même devenait joie. Christophe appelait Grazia son confesseur. Il ne lui cachait pas les faiblesses dont son amour-propre avait à souffrir. Il s'en accusait avec une contrition excessive, et elle apaisait en souriant les scrupules de son vieil enfant. Il allait jusqu'à lui avouer sa gêne matérielle. Toutefois, il ne s'y était décidé qu'après qu'il avait été bien entendu entre eux, qu'elle ne lui offrirait rien, qu'il n'accepterait d'elle rien. Dernière barrière d'orgueil qu'il maintint et qu'elle respecta. À défaut du bien-être qu'il lui était interdit de mettre dans la vie de son ami, elle s'ingéniait à y répandre ce qui avait mille fois plus de prix pour lui, sa tendresse. Il en sentait le souffle autour de lui à toute heure du jour. Le matin, il n'ouvrait pas les yeux, il ne les fermait pas le soir sans une muette prière d'adoration amoureuse. Et elle, quand elle s'éveillait, ou que la nuit elle restait comme souvent des heures sans dormir, Elle songeait « Mon ami pense à moi » et un grand calme les entourait. Sa santé s'était altérée. Grazia était constamment alitée ou devait passer des jours étendue sur une chaise longue. Christophe venait quotidiennement causer, lire avec elle, lui montrer ses compositions nouvelles. Elle se levait alors de sa chaise, elle allait au piano en boitant, avec ses pieds gonflés. Elle jouait la musique qu'il avait apportée. C'était la plus grande joie qu'elle pût lui faire. De toutes les élèves qu'il avait formées, elle était, avec Cécile, la mieux douée. Mais la musique, que Cécile sentait d'instinct, sans presque la comprendre, était pour Grazia une belle langue harmonieuse dont elle savait le sens. Le démoniaque de la vie et de l'art lui échappait entièrement. Elle y versait la clarté de son cœur intelligent. Cette clarté pénétrait le génie de Christophe. Le jeu de son ami lui faisait mieux comprendre les obscures passions qu'il avait exprimées. Les yeux fermés, il l'écoutait, il la suivait, la tenant par la main, dans le dédale de sa propre pensée. À vivre sa musique au travers de l'âme de Grazia, il épousait cette âme et il la possédait. De ce mystérieux accouplement naissaient des œuvres musicales qui étaient comme le fruit de leurs êtres mêlés. Il le lui dit un jour, en lui offrant un recueil de ses compositions, tissé avec sa substance et celle de son ami. Nos enfants. Communion de tous les instants où ils étaient ensemble et où ils étaient séparés. Douceur des soirs passés dans le recueillement de la vieille maison, dont le cadre semblait fait pour l'image de Grazia, et où des domestiques silencieux et cordiaux, qui lui étaient dévoués, reportaient sur Christophe un peu du respectueux attachement qu'ils avaient pour leur maîtresse. Joie d'écouter à deux le chant des heures qui passent et de voir le flot de la vie s'écouler. La santé chancelante de Grazia jetait sur ce bonheur une ombre d'inquiétude. Mais malgré ses petites infirmités, elle restait si sereine que ses souffrances cachées ne faisaient qu'ajouter à son charme. Elle était sa chair souffrante, touchante amie au lumineux visage. Et il lui écrivait certains soirs, au sortir de chez elle, quand il avait le cœur gonflé d'amour et ne pouvait attendre au lendemain pour le lui dire « Liebe, 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 Grazia ». Cette tranquillité dura plusieurs mois. Il pensait qu'elle durerait toujours. L'enfant semblait les avoir oubliés. Son attention était distraite. Mais après ce répit, il revint à eux et ne les lâcha plus. Le diabolique petit s'était mis dans la tête de séparer sa mère de Christophe. Il recommença ses comédies. Il n'y apportait pas de plan prémédité. Il suivait, au jour le jour, les caprices de sa méchanceté. Il ne se doutait pas du mal qu'il pouvait faire. Il cherchait à se désennuyer en ennuyant les autres. Il n'eut de cesse qu'il n'obtint de Grazia qu'elle partît de Paris, qu'il voyageât au loin. Grazia était sans force pour lui résister. Au reste, les médecins lui conseillaient un séjour en Égypte. Elle devait éviter un nouvel hiver dans un climat du Nord. Trop de choses l'avaient ébranlée. Les secousses morales des dernières années, les soucis perpétuels causés par la santé de son fils, les longues incertitudes, la lutte livrée en elle et dont elle ne montrait rien, le chagrin du chagrin qu'elle faisait à son ami. Christophe, pour ne pas ajouter au tourment qu'il devinait, cachait ce qu'il avait à voir s'approcher le jour de la séparation. Ils ne faisaient rien pour le retarder, et ils affectaient tous deux un calme qu'ils n'avaient point, mais qu'ils réussissaient à se communiquer l'un à l'autre. Le jour vint, un matin de septembre. Ils avaient ensemble quitté Paris au milieu de juillet et passé les dernières semaines qui lui restaient en Engadine, près du pays où ils s'étaient retrouvés il y avait 6 ans déjà. Depuis 5 jours, ils n'avaient pu sortir. La pluie tombait sans relâche. Ils étaient restés presque seuls à l'hôtel. La plupart des voyageurs avaient fui. Ce dernier matin, la pluie cessa enfin, mais la montagne restait vêtue de nuages. Les enfants partirent d'abord, avec les domestiques, dans une première voiture. À son tour, elle partit. Il l'accompagna jusqu'à l'endroit où la route descendait en lacets rapides sur la plaine d'Italie. Sous la capote de la voiture, l'humidité les pénétrait. Ils étaient serrés l'un contre l'autre, et ils ne se parlaient pas. Ils se regardaient à peine. L'étrange demi-jour, demi-nuit qui les enveloppait. La laine de Grazia mouillait d'une buée sa voilette. Il pressait la petite main tiède sous le gant glacé. Leurs visages se joignirent. À travers la voilette humide, il baisa la chère bouche. Ils étaient arrivés au tournant du chemin. Il descendit. La voiture s'enfonça dans le brouillard. Elle disparut. Il continuait d'entendre le roulement des roues et les sabots du cheval. Les nappes de brume blanche coulaient sur les prairies. Sous le réseau serré, les arbres transis pleuraient. Pas un souffle. Le brouillard bâillonnait la vie. Christophe s'arrêta, suffoquant. Rien n'est plus, tout est passé. Il aspira largement le brouillard, il reprit son chemin. Rien ne passe pour qui ne passe point.